À l'océan?
I hope for your help to explore and protect the wild ocean in ways that will restore the health.
Les destructeurs de l'océan peuvent commencer à trembler. La puissance citoyenne est en chemin.
Health to the ocean means health for us.
Nous sommes la détermination, nous sommes le nombre et nous sommes inépuisables. Aux amoureux de l'océan et aux défenseurs du climat, de la justice et d'un vivre ensemble joyeux et réinventé. Le combat ne fait que commencer. La
mer. Bienvenue dans À l'océan, l'émission qui donne des nouvelles de nos océans, nos abysses, nos mers, nos littoraux, bref, de nos milieux marins et des merveilleuses créatures qui s'y trouvent. Mais aussi des menaces et des destructions qui pèsent sur ces écosystèmes. Pas de panique, je vous donne des petits outils pour lutter en faveur des océans. Je m'appelle Clotilde et je suis passionnée de biologie marine. Je vous invite à mettre vos palmes, votre tuba et plongeons ensemble à la découverte de notre planète bleue. Le 4 mai dernier se déroulait le Met Gala, cette soirée caritative pour récolter des fonds pour le musée du même nom, où se retrouvent de nombreuses stars hollywoodiennes aux tenues les plus extravagantes. Cette année, cet événement était sponsorisé par Jeff Bezos et son épouse Lauren Sanchez. Jeff Bezos est le créateur et propriétaire d'Amazon. Il est multimilliardaire et est classé dans le top 5 des hommes les plus riches du monde. On estime qu'il gagne 13 millions d'euros par jour, soit 5 000 euros par seconde. Lors du Met Gala, Mary Hill, une femme de 72 ans qui travaille, encore, dans les entrepôts d'Amazon, a témoigné de ses conditions de travail pour un salaire de misère. Son témoignage a été projeté sur la façade du penthouse de Jeff Bezos de New York, estimé à 120 millions de dollars. Dans son témoignage, elle dit, je cite, « Sans chaque employé de tous les entrepôts d'Amazon, vous n'auriez pas tous ces zéros sur votre compte en banque, Jeff Bezos. » En voyant ça, je me suis dit, « Tiens, et si je faisais un épisode sur les parasites ? Vous ne voyez pas le rapport ? Laissez-moi vous expliquer. C'est parti, on va parler des parasites du monde, marins évidemment.
Vivre aux dépens d'un autre, comme un parasite.
Exactement, c'est une définition correcte de ce qu'est un parasite. Si nous décomposons le terme avec les origines grecques, nous avons para, qui veut dire à côté, et cytos, qui signifie grain, blé ou encore nourriture. Donc le parasite est celui qui prend la nourriture à côté d'eux. Le parasite ne tue pas son hôte, car il en a besoin pour survivre. Il va l'affaiblir et faire en sorte d'en tirer le meilleur profit. Est-ce que vous commencez à voir le parallèle avec Jeff ? Continuons. Les parasites représentent la majorité des espèces sur la Terre. Ils sont très nombreux et aussi très anciens. Il y a du parasitisme depuis qu'il y a la vie sur Terre. Les scientifiques ont retrouvé un fossile de parasite dans un fossile de brachiopode, une sorte de gros bivalve avec un pédoncule comme une grosse moule, on va dire, datant du Cambrien, c'est-à-dire il y a 510 millions d'années. Le Cambrien, c'est à ce moment-là que la vie explose sur Terre et notamment dans les océans. L'espèce humaine va arriver plus de 400 millions d'années plus tard. Les parasites peuvent avoir un cycle de vie nécessitant plusieurs hôtes, ou alors qu'un seul. On parle de coévolution entre l'hôte et le parasite. Cette coévolution fait une sorte de sélection naturelle. L'hôte développe des stratagèmes pour se débarrasser du parasite et le parasite va faire de même pour s'adapter à son hôte. C'est une sorte de course à l'armement, un peu comme l'histoire des luttes syndicales pour les droits des travailleurs face au patronat. Il existe plusieurs formes de parasites. Les ectoparasites, ils se fixent sur les téguments ou les branchies de leur hôte. Les mésoparasites, qui eux évoluent dans le système digestif de leur hôte, ou encore les endoparasites, qui se trouvent dans le corps, les cavités et les tissus de leur hôte. Allons à la rencontre de quelques-uns. Le premier parasite dont je voulais vous parler, c'est Anisakis. Non, ce n'est pas le nom d'une planète de sable et d'épices, mais un petit ver blanc de quelques centimètres bien connu des pêcheurs et de l'industrie de la pêche. Ce parasite est présent dans plus de 200 espèces de poissons sauvages, comme le hareng, le maquereau, la lotte, le flétan, le merlu ou encore les anchois. Donc des poissons assez communs dans vos assiettes, n'est-ce pas ? Anisakis se fixe dans la paroi du tube digestif du poisson, c'est donc un mésoparasite. Le problème, c'est qu'il ne fait pas la différence entre un tube digestif de poisson ou humain. En cas d'ingestion, il peut alors provoquer des ulcères, des occlusions, voire des chocs anaphylactiques pour les cas les plus graves. Pour s'en prémunir, il faut faire une vérification visuelle de votre poisson et sinon le cuire bien à cœur. Pour ce qui est de la consommation de poissons crus, comme les marinades, les ceviches ou les sushis et sashimi, il faut que le poisson mort ait subi plus de 7 jours de congélation pour être sûr de tuer le parasite. Donc on vous dit poisson frais, ça dépend du point de vue. Vous penserez à moi et à Anisakis lors de votre prochain choix devant l'étal de poissonnerie ou votre assiette de sushi.
Mais ordre alphabétique, c'était sûr qu'ils sont frais, tes poissons, là?
Tu plaisantes. Je les ai ramassés sur la plage la semaine dernière et j'ai respecté la chaîne du tiède.
Ah non, tu peux y aller les yeux fermés.
Il y a beaucoup de mouches, hein, quand même.
Ah non, mais ça, je te les compte pas.
Le prochain parasite est digne des plus grands films d'horreur. C'est Cyanothea exiga, ou encore appelé pou de langue. C'est une espèce de parasite de la famille des crustacés. À son état juvénile, le pou de langue se fixe sur les branchies d'un poisson, c'est donc un nectoparasite. La femelle grossit et vient alors se fixer à la base de la langue du poisson, privant celle-ci de son afflux sanguin. La langue se nécrose et est mangée petit à petit par le pou de langue, qui continue son festin et sa croissance. La femelle pou de langue finit finalement par prendre entièrement la place de la langue de son hôte, se nourrissant de son sang et lui faisant office de langue. C'est le seul parasite connu capable de remplacer un organe de son hôte. Le poisson continue de s'alimenter tout en nourrissant le parasite dans sa bouche et dans ses branchies. Il se fait alors passer comme indispensable pour le poisson, mais sans contrepartie pour celui-ci. Un peu comme Bernard Arnault, patron de LVMH et première ou deuxième fortune du monde en fonction des années, qui est dit essentiel pour créer des emplois, mais qui, proportionnellement à son revenu, paye beaucoup moins d'impôts que vous et moi.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Bref, la poue de langue peut atteindre plus de 3 cm. Quand vous ouvrez la bouche d'un poisson vivant infesté, vous pouvez l'apercevoir en train de gesticuler. Oh, horrible. De toute façon, moi j'ai jamais aimé les crustacés. Donc bon, poisson au suivant. Le prochain est aussi appelé pou, mais le pou de baleine cette fois, ou encore Cyamidae. C'est aussi un petit crustacé, décidément. De 6 à 19 mm de long, avec un corps aplati, blanc, et des pattes avec des crochets qui infestent un hôte sans jamais le quitter. Ce petit crustacé se fixe dans les replis de peau ventrale, autour des yeux, les plaies ouvertes ou encore les organes génitaux. Il irrite la peau du cétacé, s'en nourrit et peut aggraver voire causer des plaies. Un cétacé peut être porteur de plusieurs milliers de parasites. Cela va entraîner un inconfort, du stress ou encore influencer sa nage ou son comportement. Pour s'en débarrasser, la baleine n'a pas beaucoup d'options à part sauter pour les expulser ou encore compter sur des poissons de type nettoyeur comme la rémora qui se nourrit des parasites de ce genre. La rémora est un poisson à ventouse longiforme qui se fixe sur les grands animaux marins comme baleines, requins, raies ou encore tortues pour se déplacer car il gère mal sa flottabilité, tout en les décrassant de leurs parasites. Il est aussi considéré comme un parasite, mais celui-ci est commensal, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas de préjudice à son hôte. Les poux de baleine sont incapables de nager en eau libre, donc ils se transmettent par contact entre différents individus. D'ailleurs, il n'est pas rare que dès sa naissance, le baleineau soit colonisé par les poux de baleine de sa mère. Autre particularité, les poux de baleine ont tellement coévolué avec les cétacés qu'ils sont spécifiques aux espèces. C'est-à-dire qu'il y a des poux de baleine pour les baleines à bosse et d'autres poux de baleine pour les baleines bleues. Chez les cachalots, il y a même des poux de baleine différents en fonction du sexe de cachalot. Ils sont tellement spécifiques qu'un poux de baleine à bosse ne peut pas survivre sur un cachalot et inversement. Ces particularités des poux de baleine en font des aides essentielles aux scientifiques. En analysant leur ADN, les chercheurs et chercheuses arrive à retracer les routes migratoires et l'histoire de populations de baleines. Notre dernier parasite possède pour moi le cycle de vie le plus incroyable. C'est la saculine, encore un crustacé, qui commence sa vie sous forme de larve dans le plancton errant dans la colonne d'eau grâce au courant. Elle cherche son hôte, un crabe vert. Quand elle s'accroche à lui, elle perce sa carapace au niveau d'une membrane ou d'un tissu mou et s'injecte, oui oui, vous avez bien entendu, elle se vide sous forme d'amas de cellules souches indifférenciées se dissolvant dans le système digestif du crabe. Ensuite, elle va se ramifier à l'intérieur du crabe, puis se développe sous forme de réseau racinaire jusqu'au bout des pinces du crabe, prenant possession de tout son corps, de ses yeux jusqu'au bout de ses pattes. On appelle ça l'internat de la saculine. Oui, nous sommes sur un véritable scénario de série de zombies. Et ce n'est pas fini, car lors de sa reproduction, la saculine va sortir ses gonades et œufs sous une forme de masse blanchâtre arrondie sous le ventre du crabe. C'est l'externat de la saculine. Et cela se trouve au même endroit où normalement la femelle crabe devrait porter ses œufs. Le crabe va alors arrêter de muer et arrêter sa croissance. Et là, phénomène incroyable, si le crabe infecté est un mâle, il subit une castration parasitaire et va se mettre à adopter le comportement d'une femelle avec ses œufs de parasite. Il va en prendre soin comme si c'était les siens, en les aérant, les nourrissant, les protégeant. Le crabe est comme un zombie qui vit, mange, bouge, mais uniquement au profit du parasite, qui lui change son comportement, lui fait croire évidemment que tout ça, c'est pour son bien. Alors reprenons. Les parasites sont des organismes qui profitent du travail, enfin, du sang des autres, de leur hôte, dont ils ne se séparent pas, car ils ont besoin d'eux pour exister, pour vivre, croître, se développer, tout en leur laissant croire, pour certains, que c'est normal pour eux, que tout va bien, sans avoir à donner de contrepartie. Pour moi, ça ressemble quand même pas mal à tous les supramilliardaires qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs et travailleuses, sans leur donner de salaire décent, et qui dépendent d'eux pour s'enrichir. Tout en faisant croire que c'est normal, car ils font de l'emploi, hein, mais sans autre contrepartie, car ils ne payent pas assez d'impôts proportionnellement à leurs revenus et jouent à fond le jeu pervers de l'optimisation et l'évasion fiscale. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être un crabe vert infecté par de la saculine capitaliste. Et vous ? Voilà, cet épisode d'Allocéan sur les parasites se termine. Afin de mieux identifier les vrais parasites de nos sociétés, je vous conseille le livre « Parasites » aux éditions « Des liens qui libèrent » de Nicolas Framont, rédacteur en chef du magazine Frustration et sociologue du travail. Je vous laisse avec « The Belt of Death », la musique originale du film coréen à la palme d'or et oscarisé « Parasites » bien sûr. Et je vous fais des bisous salés bien sûr.